Et si vous ne saviez pas, mon rédempteur vit. Votre rédempteur vit aussi. Et il vit, et mieux que ça encore. Il nous a donné la vie en nous. Et bon, on aurait pu continuer à chanter là sur ces chants. Hein. Mais néanmoins, je pense que c'est un sujet que régulièrement, et puis ces derniers temps, beaucoup dans l'Église, on a entendu beaucoup de choses, on a été exhortés. Et je ne sais pas si comme moi, mais ces paroles, ces textes de la parole de Dieu travaillent en moi. Je peux vous dire qu'il y en a certains qui me bouleversent. Alors je vais vous les partager. C'est des passages qui nous interpellent. Et bien sûr, je vais parler du Saint-Esprit. Avec quelle action, bien sûr, il agit par son œuvre dans le cœur des croyants, dans l'Église. Alors on l'a vu, hein, il a été envoyé pour consoler. Il a été envoyé pour suppléer à l'œuvre de Christ pour que nous ne restions pas sans force. C'est clair que le Rédempteur vit, mais s'il vivait dans le ciel tout seul, nous, qu'est-ce qu'on deviendrait? On serait tout seul aussi. C'est pour ça qu'il nous a promis et envoyé ce Consolateur prévu en la personne du Saint-Esprit. Alors, bien que le Saint-Esprit soit en premier lieu notre Consolateur privé, personnel, il est évident aussi que, puisqu'on a tous été baptisés d'un seul esprit, puisque nous sommes remplis tous de ce même esprit, bien forcément nous sommes tous au bénéfice de cette consolation aussi commune. C'est 1 Corinthiens 12, verset 7 qui nous dit « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et c'est ça ce matin que je voudrais vous parler de la manifestation de l'esprit. Et le Saint-Esprit, ouais, il faut que je suive aussi. Le Saint-Esprit est notre coéquipier indispensable pour le service. Et c'est pour ça qu'il veut distribuer ses dons sur chaque croyant en particulier, et ça comme il le veut. Alors en reprenant les textes de Paul, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers dimanches, nous avons vu l'importance d'être remplis ou baptisés du Saint-Esprit. Nous avons vu aussi que nous avons à veiller à ne pas attrister ou éteindre le Saint-Esprit en nous. Et puis, je vous propose vraiment ce matin de voir ce dernier point sur lequel l'apôtre Paul insiste, c'est d'aspirer aux dons spirituels. Alors, c'est aux Corinthiens au chapitre 12, et à plusieurs reprises aussi dans le chapitre 14 de la première épître, que l'apôtre Paul insiste sur le fait d'aspirer aux dons spirituels. Alors, il est donc intéressant de voir la définition du verbe « aspirer », et puis bien sûr, quels sont ces dons de l'esprit. Alors, « aspirer » signifie « désirer », »,« souhaiter » avec intensité, « souhaiter ardemment ». Et quand nous aspirons à quelque chose, la première chose que nous faisons, alors si on n'est pas timide, hein, puis qu'on n'a pas peur forcément du refus, c'est que nous n'hésitons pas de parler de ce que nous aspirons aux autres. Aspirer à un don spirituel, c'est donc le désirer ardemment et le demander avec envie. Et les dons de l'esprit étant distribués finalement par pure grâce, pourquoi ne pas demander à Dieu, avec insistance, qu'il nous fasse la grâce de nous partager ces dons spirituels? Alors justement, ces dons spirituels, quels sont-ils? Le dernier verset du chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens précise « Aspirez aux dons les meilleurs ». Alors les dons de l'esprit, sont-ils les meilleurs? Alors je vous propose donc de lire le début de ce chapitre 12 pour voir cette liste des dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, donc c'est 1 Corinthiens 12, verset 1, « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'y parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un est donné par à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors tout d'abord, je trouve touchante la sollicitude de Paul à l'égard des Corinthiens et peut-être aussi à notre égard, au sujet de leur éventuelle ignorance concernant les dons spirituels. Et pour moi aussi, en tant qu'ignorant, sur le sujet, je suis vraiment interpellé par ce passage. Pourquoi spécifiquement ici, dans ce chapitre, il est fait référence aux dons de l'Esprit qui semblent, d'après la liste qui en est faite, ici, globalement d'ordre surnaturel? Est-ce qu'on peut... le prochain? D'autres passages... tu peux passer encore? D'autres passages mentionnent d'autres dons, plutôt d'ordre naturel, tels que le mariage, le célibat, et je rajouterai avec aussi tous les talents naturels avec lesquels nous sommes nés, ou bien que nous avons acquis et développés tout au long de notre vie. Je pense aux facultés, pour les travaux manuels, à nos talents musicaux, aux voix, à la faculté d'éloquence, à la faculté de fédérer, d'encourager, d'écouter ou de servir, ou encore notre argent. Et puis il y en a tellement d'autres. Ce sont tous ces dons ou qualités que nous pouvons reconnaître plus ou moins facilement parmi nos frères et sœurs. Alors il est évident que tous ces talents sont des dons de grâce de notre Dieu et qu'ils sont indispensables. Et notre Dieu nous fait encore la grâce de les répartir, évidemment, dans les églises, là où il y en a besoin. Mais quand ils sont au service de l'Église, ces talents naturels sont consacrés à notre Seigneur. Et ils ne peuvent pas être enterrés ou conservés inutilement, ou alors utilisés pour le monde et non pas pour l'Église locale. Et de plus, le Saint-Esprit les oriente. En nous, il travaille, il les oriente, il les qualifie. Il les qualifie de sa perfection à lui pour qu'ils servent l'Église. Donc, tous ces talents sont donc à entretenir, à gérer, à développer pour qu'ils soient mis au service de notre Seigneur et pour qu'ils deviennent, tu passes, éventuellement des ministères. C'est l'encouragement que Paul fait à Timothée pour qu'il persévère et progresse dans le don qu'il a en lui. Je vous lis ce passage de 1 Timothée 4, verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et c'est aussi le sens du passage sur les dons de Romains 12, que je propose aussi de relire à partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents, et là c'est souligné, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en fonction de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors là, il s'agit bien des dons différents, distribués selon la grâce et visiblement pas selon l'Esprit. Alors ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit qui a fait sa demeure en nous n'oriente pas et ne fait pas son œuvre pour nous aider à nous attacher à notre ministère. Il y a là dans cette liste et en trame de fond aussi une implication nette du croyant pour faire évoluer ses dons et jusqu'à ce qu'ils s'en transforment en ministère. Et c'est bien là le sens du mot « s'attacher » dans ce passage. D'ailleurs, si on lit, on reprend le 1 Corinthiens 12, et si nous lisons de plus près le verset, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors là, on retrouve un peu l'idée de la Trinité, dans chacune de ses spécificités. Les dons, bizarrement, sont liés à l'Esprit. Pas bizarrement. Divinement, sont liés à l'Esprit. Les ministères, liés au Seigneur et à sa grâce. Le Seigneur qui est aussi le Créateur, qui nous a créés avec ses dons de grâce. Et puis, bien sûr, il y a la force et la puissance qui viennent de Dieu pour les accomplir. Et ça, c'est lié, bien sûr, à l'omnipotence de notre Dieu. Alors, il y a donc une différence entre ces dons de grâce naturels que nous avons tous et qui sont à développer pour qu'ils se transforment en ministère sous l'inspiration du Saint-Esprit, et puis les dons de l'Esprit qui sont à aspirer pour les recevoir. Les premiers, me semble-t-il, sont acquis, et le croyant en a la gestion, et sauf accident, ils ne peuvent pas disparaître subitement. Ils sont donc personnalisés. En revanche, pour les dons spirituels, comme le verset 11 de 1 Corinthiens 12 l'atteste, c'est seulement le Saint-Esprit qui opère ces choses et qui distribue à chacun comme il veut. Hébreux 2, verset 4 dit aussi « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Alors ces passages montrent bien l'aspect totalement libre de l'Esprit, qui au gré de sa volonté distribue les dons spirituels. Alors nous aurions tendance à penser que du moment où nous recevons un don spirituel, nous en disposions à jamais et un peu comme on l'entend. Et que nous avons aussi forcément à le travailler, à s'y attacher. Justement pas. Le terme exact, c'est aspirer et non pas attacher. Alors que le don de grâce, je dirais plutôt naturel, se développe chez celui qui s'y attache, les dons spirituels sont à l'un, hein, c'est dit à l'un ou à l'autre. On ne sait pas trop qui. Celui qui aspire, à ceux qui aspirent. Donc le don spirituel ne serait pas personnalisable, et c'est tant mieux comme cela. Cela évite ainsi de réveiller notre orgueil spirituel. Un même don spirituel peut donc se manifester par l'un à un moment et par un autre à une autre occasion. Les Corinthiens, lorsqu'ils étaient païens, se laissaient conduire par les idoles muettes, nous rapporte Paul ici. Ici, là, le Saint-Esprit intervient dans l'Église de façon inopinée pour parler, pour guérir, pour opérer des miracles, pour prophétiser, pour discerner et interpréter. Alors que les dons de grâce sont reconnus et même personnalisés, c'est le celui. Les dons de l'Esprit sont distribués pour des raisons précises et à des moments précis pour l'utilité commune. Alors que le don de grâce est à gérer individuellement avec le secours du Saint-Esprit, les dons spirituels ne sont gérables, évidemment, que par le Saint-Esprit lui-même. Tu peux mettre... Alors je vous propose donc de voir brièvement maintenant, point par point, quels sont ces dons de l'Esprit. Chacun de ces dons pourrait faire l'objet d'une étude biblique spécifique, et peut-être elle pourrait être faite, mais je trouve intéressant qu'en Église, on en fasse un premier aperçu. Et le premier dans ce passage, c'est la parole de sagesse. Alors, il ne s'agit pas là de la sagesse, mais de la parole de sagesse. Cette parole de sagesse ne provient pas de notre raisonnement, ni de notre intelligence, mais elle provient bien de l'inspiration du Saint-Esprit, qui intervient pour donner une révélation précise, dans une situation précise. C'est par exemple cette parole sage donnée par Joseph au Pharaon de faire des réserves cette année, à la suite du récit du rêve du Pharaon. Ce sont les paroles de sagesse dans les actes qui furent bien souvent d'un grand secours pratique dans la vie de l'Église. Cette parole de sagesse l'a préservée des divisions. Cette parole de sagesse n'est pas attitrée aussi à un groupe de personnes, les anciens par exemple, qui eux pourtant sont là pour faire preuve de sagesse et de discernement. Nous le comprenons bien, combien une parole de sagesse peut être utile pendant une période de crise dans une église. Comme cette parole est pour l'utilité commune, soyons aussi exercés à l'écouter, à l'entendre aussi pour qu'elle soit relayée et prise en compte. Le second don spirituel est la parole de connaissance. Là aussi, il ne s'agit pas de la connaissance. Car ce que nous connaissons, nous dit la parole, vient de la parole de Dieu. Et même avec la parole de Dieu, nous ne pouvons pas tout connaître. C'est 1 Corinthiens 13, au verset 12 et 13, on peut lire. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il nous est donc impossible, pour le moment, de tout connaître, et heureusement. Comme cela, nul ne peut prétendre pouvoir comprendre les Écritures. Ou alors, s'il le prétend, il faut vite s'en éloigner. Néanmoins, la parole de connaissance est liée à la parole de Dieu. Elle est une révélation particulière de l'Esprit-Saint sur certains passages de l'Écriture. Je crois que ce don rend ainsi la parole de Dieu vivante et opérante. En remettant peut-être au goût du jour des passages méconnus ou ignorés jusque-là. Cette parole de connaissance est bien entendu au service de l'Église. Elle permet ainsi de révéler la parole de Dieu sous un aspect nouveau et pour, bien sûr, une situation particulière et bien entendu pour l'utilité commune. Le troisième don, c'est le don de la foi par le même esprit. Là aussi, il nous est parlé d'une foi donnée par le Saint-Esprit dans une inspiration spéciale et elle a pour but de desservir, là aussi, de servir l'édification de l'Église. La foi pour les croyants demeure un mystère. Comment se fait-il qu'avec un petit peu de foi, nous puissions déplacer des montagnes? Comment se fait-il que lorsque nous entendons cette vérité de la bouche de notre Seigneur pourtant, nous ayons du mal à le croire? Le Seigneur nous a pourtant dit de nous inquiéter de rien et de considérer les oiseaux du ciel qui n'amassent pas et que le Père nourrit. Comment se fait-il qu'avec tout cela, nous ressentons toujours le besoin de se mettre à l'abri d'éventuelles difficultés. Les disciples déjà demandaient au Seigneur d'augmenter leur foi. Le don de la foi par le Saint-Esprit est une réponse. Comme notre foi naturelle est trop faible, c'est le Saint-Esprit qui vient nous donner sa propre foi, pour la rendre agissante en nous. En quelque sorte, ce n'est pas nous qui croyons, mais c'est l'Esprit de foi en nous. Cette foi, elle est pleine de zèle. Cette foi permet des délivrances dans l'Église. Elle glorifie Dieu et elle édifie, bien entendu. Et le don de foi entraîne une confiance finalement inébranlable envers Dieu et permet de réaliser pratiquement la puissance de Dieu. Moi, j'ai été personnellement touché par le témoignage de guérison, j'en avais déjà parlé, de la maman de Natacha, qui était basée sur une foi inébranlable en une promesse de Jésus. Elle avait reçu cette parole. Si tu as de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne de se transporter et elle se transporterait. Alors, sa maladie pour elle, elle nous a témoigné que c'était cette montagne. Elle a simplement demandé à Dieu que cette montagne, que cette maladie disparaisse. Et puis, c'est bien et bien ce qui s'est passé. C'était depuis des années que cette maladie était là, présente en elle. Plusieurs priaient certainement pour sa guérison. Mais il a fallu un don de foi miraculeux et puis personnel pour que la maladie cesse. Et outre la guérison et la délivrance pour elle, ce don de foi était pour moi un enseignement sans pareil et d'un encouragement particulier. Le simple fait, moi, d'être témoin de cet acte de foi miraculeux dans l'Église a pour conséquence d'affirmer la foi de tous. C'est ce qui s'est passé pour moi et je vous en témoigne. Ça continue à m'interpeller. Le don suivant dans la liste des Corinthiens est justement le don de grâce des guérisons. Combien de fois nous avons désiré ce don lorsque nous sommes devant une personne dans la souffrance d'une maladie qui est difficilement soignable. Là encore, le don des guérisons n'est pas dédié à un spécialiste dans l'Église. J'ai été surpris par le pluriel « don des guérisons », comme si cela signifiait une diversité dans les manières de guérir, et puis bien sûr, dans les personnes qui exercent ce don. Comme tous les dons de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit souverain qui donne une inspiration à l'un, à l'autre, à l'occasion d'une rencontre. Il est frappant de voir que les guérisons qui sont décrites dans les évangiles ne sont pas en faveur des enfants de Dieu, mais plutôt pour l'évangélisation des non-croyants, alors qu'eux, ils n'ont pas forcément une foi personnelle. Il est vrai que les guérisons faisaient partie des signes qui accompagnaient le message de l'Évangile et avait pour but de témoigner pratiquement de la puissance de Dieu. Bien sûr, les chrétiens ne sont pas en reste par rapport à la guérison. Nous l'avons vu précédemment, le don de foi apporte la guérison et bien entendu, la prière, l'intercession sont le plus couramment utilisés dans les églises pour demander la guérison. Et même ici, à Prevesen, nous avons été à plusieurs fois témoins de la grâce de Dieu dans la guérison de frères et sœurs ici à Prevesen. Enfin, la parole évoque dans l'épître de Jacques la prière avec l'onction d'huile par les anciens. Nous avons là une invitation par la parole qui est destinée à tous. Bien sûr, notre Dieu est souverain, néanmoins, nous ne nous privons pas de cette grâce. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens. Cela semble tellement simple et évident. Là aussi, que notre foi augmente pour que nous puissions voir aussi les guérisons se propager ainsi dans l'Église. Le cinquième don, c'est le don d'opérer des miracles. Et dans d'autres versions, ils traduisent le don d'opérer des actes de puissance. Alors nous l'avons vu dans Hébreux 2, verset 4, il parle de signes, de prodiges et divers miracles qui appuyaient le témoignage. Étonnamment, ce verset se trouve au milieu d'un passage, Hébreux 2, où il est évoqué en nombreuses fois les anges. Et on l'a vu le dimanche dernier, les anges se nomment aussi les puissances. Plus encore au verset 14 de ce chapitre 2, il est évoqué le diable qui avait le pouvoir de la mort et qui a perdu sa puissance, vaincu par la mort volontaire de notre Sauveur. Cela a été rappelé dimanche dernier, notre combat n'est pas une guerre fratricide à cause de nos oppositions quelconques. Notre combat est contre les principautés et les autorités célestes. Ce don d'opérer des miracles arrive à point nommé. Il permet donc à l'Église de mener ce combat. C'est ce don qui permet de délivrer un mort par un acte de résurrection, comme cela a été le cas de Tabitha, de Tiche dans les Actes. C'est lui qui permet de délivrer une personne liée par des démons ou par toute autre chaîne démoniaque. Et outre que ces actes de puissance sont des témoignages, je dirais, forts et puissants pour les hommes et pour l'Église, ces actes sont surtout un témoignage pour les anges. N'oublions pas que les dominations et autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu. Cela peut être un total mystère pour nous. Mais c'est une réalité spirituelle qu'il faut intégrer. Bien entendu, pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce combat, le schéma d'autorité selon Christ doit être respecté. Je lis ce schéma d'autorité, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Peut-être que pour les hommes, ce schéma est dépassé. Je veux bien l'admettre. Mais c'est une réalité spirituelle et je ne veux pas me faire manipuler par la pensée humaine qui n'est pas forcément celle de Dieu. Car ce schéma d'autorité est une réalité pour les anges. Elle n'est peut-être pas pour nous, c'est une réalité pour les anges. Par l'Église où ce schéma d'autorité est respecté et l'Évangile proclamé, les anges, quels qu'ils soient, plongent leur regard. Et comme pour enfoncer le clou, Paul insiste plutôt lourdement dans ce verset 11, verset 10. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des versets qu'on puisse supprimer comme ça dans la parole de Dieu. Le verset 10 dit « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Ne soyons pas surpris. Ce n'est pas pour une mode quelconque, comme on aurait pu l'entendre, ou une coutume ancestrale que les femmes devaient avoir une tête couverte ou une longue chevelure. C'est tout simplement à cause des anges. Et ainsi, par le respect du schéma d'autorité divin, le témoignage de la victoire de Christ est proclamé. Le don spirituel qui vient à la suite, c'est le don de prophétie. Et je fais encore une différence entre les prophètes et ceux qui reçoivent le don de prophétie. Le prophète est en général le premier à avoir ce dont l'Église a besoin et il est éventuellement celui qui reprend. C'était le rôle, en tous les cas, que les prophètes assuraient dans l'Ancien Testament. Ainsi, les prophètes assurent l'édification, l'encouragement et la repentance, et enfin la consolation. Ce matin, dans le culte, on a été un peu interpeller aussi la repentance pour être consolé et puis profiter de cette joie. En plus des prophètes, et si le Saint-Esprit le juge nécessaire, il donne un don particulier de prophétie. C'est le sens de la prophétie de Joël 2, où même les fils et les filles, les vieillards et les jeunes gens et les serviteurs prophétiseront. Et ce don peut donc se manifester par une pensée insistante et précise qui a le besoin d'être exprimée par des visions, par une voix ou par un signe visible. Comme le dit Paul aux Thessaloniciens, les prophéties ne sont pas à mépriser, mais à examiner et à retenir ce qui est bon. La prophétie est ainsi donnée dans le cas de l'Église, car celui qui prophétise édifie l'Église et dévoile les secrets des cœurs. Ce don de prophétie semble revêtir une importance cruciale pour Paul, vu l'insistance avec laquelle il exhorte à aspirer au don de prophétie. Dans la liste de Paul, tout naturellement, le don suivant, c'est le don de discernement des esprits. Comme nous l'avons vu, les anges connaissent par l'Église la sagesse infinie de Dieu. C'est Éphésiens 3, verset 10. Ces principautés et autorités viennent donc épier pour venir prendre les bonnes idées et ainsi les imiter. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, nous dit, et Jésus lui-même nous a avertis en Matthieu 24, verset 24, qu'il y aura des faux Christs et des faux prophètes qui feront des prodiges, qui feront des miracles, au point de séduire même les élus. Satan ne s'est pas inventé. Il ne peut pas créer. En revanche, il s'est parfaitement imité. Ce don de discernement est évidemment une protection de l'esprit, et comme les choses de l'esprit doivent être jugées spirituellement, nous voyons l'importance de ce don. Étant donné qu'il y a plusieurs esprits, il y a l'esprit de Dieu, il y a les anges, il y a les démons, il y a l'esprit de l'homme, il est impératif qu'une révélation soit donnée par le Saint-Esprit pour que l'Église soit gardée de toute dérive spirituelle. Enfin, nous arrivons aux deux derniers dons, le don de parler en langue et le don d'interprétation de ces langues. Or, qui sont repris dans 1 Corinthiens 14 et qui montrent que les Corinthiens en étaient, semble-t-il, un peu trop adeptes, au détriment d'autres dons. L'apôtre Paul semble même leur conseiller de privilégier la prophétie en raison de l'édification commune qu'elle apporte au lieu du parler en langue qui apporte plutôt une édification personnelle. Néanmoins, Paul termine ce chapitre en précisant de ne pas empêcher le parler en langue. Là et plus encore, nous sommes sur un terrain qui humainement nous dépasse complètement. Car le don de parler en langue est le seul don où c'est le Saint-Esprit un peu qui vient prendre la maîtrise de notre corps. Encore plus fort, je dirais. Il devient maître de notre langue, qui est la partie de notre corps qui nous est pourtant dit, la parole dit, qui nous est impossible à dompter. C'est Jacques qui nous dit ça. Alors que dans des langues maternelles, nous bénissons l'Éternel, nous maudissons les hommes, grâce au don des langues, le Saint-Esprit permet à notre langue de prononcer des mots dans des langues réservées uniquement pour la louange et la prière. Rien d'autre dans ces langues ne peut être prononcé. C'est quand même beau. Alors évidemment, pour que ce don soit utile à l'édification de tous, le Saint-Esprit a tout prévu. Il s'agit du don d'interpréter ces langues. Paul insiste aussi particulièrement sur ce point pour que non seulement notre esprit soit en prière, mais aussi notre intelligence. C'est pourquoi il s'agit du don d'interprétation et non pas du don de compréhension. Car si la parole en langue édifie personnellement, elle doit être interprétée par le Saint-Esprit pour l'édification de tous et non pas traduite précisément comme on aimerait plutôt que ce soit. Et là, j'aime bien cette nuance. Alors voilà, j'ai fait un aperçu limité de ces divers dons du Saint-Esprit. Et je ne serais pas complet, bien sûr, si j'oubliais le don de l'amour, qui est la voie par excellence, nous est-il dit. Alors certains voient peut-être une progression dans ces dons, pour aller jusqu'au don de l'amour. C'est certainement le plus grand, le meilleur. Notre responsabilité est donc seulement de désirer ardemment ces dons de grâce de l'Esprit. Là encore, pas pour demander personnellement le don de parler en langue, par exemple, mais pour demander de façon communautaire la manifestation de l'Esprit qu'il désire pour l'utilité commune de l'Église. Et ce n'est pas pour rien que Paul place le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens 13, entre ces deux chapitres qui évoquent les dons spirituels, comme pour insister sur le caractère altruiste de ces dons. Mis à part celui de prophétiser, c'était le cas pour les Corinthiens, nous n'avons donc pas à désirer certains dons plus que d'autres, mais seulement les désirer tous fortement. Et donner notre entière confiance au Saint-Esprit, qui connaît mieux que nous les besoins de notre communauté. Moi, je ne vous cache pas, ce message m'a interpellé, je suis toujours bouleversé, ça me parle, j'aurais pu me taire. Bon, j'ai ouvert ma bouche. Moi, je veux que quand même le Seigneur fasse résonner ces paroles, ce sont des paroles qui ont un sens. On n'est pas forcément habitué à ce message, pas forcément habitué à ce qu'on puisse ainsi lâcher jusqu'à ce qu'on ne maîtrise plus rien. C'est un peu le sens de ces dons spirituels, où il nous est dit justement de peut-être lâcher nos raisonnements et de faire confiance au Saint-Esprit. Alors, on a chacun notre démarche, bien sûr, personnelle. C'est aussi une démarche communautaire. Moi, je vous encourage à prier, à faire confiance simplement à Dieu et aspirer à ces dons, comme il nous est dit de nous y encourager. Aspirer à ces dons spirituels. Moi, je ne vous cache pas, j'ai peur encore. Je ne sais pas où je vais avec ça. J'ai été réconforté ce matin parce qu'on a prié avant et précisément, il y a deux personnes qui ont prié pour qu'on aspire aux dons spirituels. Et alors qu'ils n'étaient pas forcément conscients de ce que j'allais parler. Moi, je vois des signes de ces choses-là qui m'ouvrent des portes ouvertes. N'ayons pas peur, nous dit le Seigneur. Faisons-lui confiance. Je finirai par la prière. Oui, notre Dieu, tu vois notre ignorance quant à ce sujet et nous faisons appel vraiment à ta grâce. Nous voulons tous les quatre te rendre grâce pour tous les dons qu'il y a dans cette Église et tu en as fourni tellement. Toutes ces qualités que tu as mis à chacun de mes frères et sœurs, pour que nous puissions ainsi vivre de tels moments comme nous l'avons vécu ce matin. Merci pour ces enfants, pour lesquels tu qualifies aussi, que tu éduques. Et nous voulons te prier pour que tu les bénisses. Mais au-delà de tout cela, Seigneur, tu vois ces dons spirituels qui sont listés, qui sont précis dans ta parole, et qui nous interpellent. Et nous voulons nous placer devant toi comme de simples enfants pour que tu nous qualifies, pour que toi tu donnes cette soif d'aspirer à ces dons spirituels pour qu'ils soient ainsi distribués comme le Saint-Esprit le désire. Sois loué, fais ton œuvre en nous, Seigneur, encore de sanctification. Fais ton œuvre pour nous faire marcher et grandir de progrès en progrès. Sois loué, notre Dieu, par ton immense amour et ton plan parfait qui est au-delà de toute de toute imagination. Au nom du Seigneur. Amen.
Bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de saluer. J'aimerais remercier le groupe de louanges et Pierre pour ce qu'ils nous ont apporté. C'est vrai, quel programme ! Quel programme pour la rentrée ! Celui qui trouve encore à s'ennuyer avec ça... Ben, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Aspirer aux dons de l'esprit, aux dons les meilleurs, c'est vraiment encourageant et je vous encourage vraiment à vous placer devant Dieu vraiment et à aspirer à cela, à le vivre en fait. Et pour le vivre, ben, figurez-vous, j'ai plein d'annonces à partager. Alors il y aura, je pense, plein aussi de possibilités pour mettre en pratique. Mardi prochain à 19h30, la commission de travaux qui se réunit, c'est la reprise aussi pour la commission de travaux. C'était prévu la chorale mercredi, mais elle est reportée d'une semaine. La semaine qui vient étant déjà assez chargée. C'est aussi la semaine des cellules pour Prefsaint. Alors pour Prefsaint, c'est mardi, donc chez vous, hein, chez Emmanuel et Rebecca. Sinon pour Collonges, c'est chez Pierre et Déborah, jeudi, et pour Gex, c'est chez Jean-Paul et Lydie, a priori parce qu'ils sont en vacances et je crois qu'ils n'ont pas eu l'information encore. Alors si des fois ça changeait, ben, je vous le transmettrai pour la cellule de Gex. Sinon, samedi prochain, donc le week-end prochain, il y a un week-end d'église au Col des Mosses. Alors, tout d'abord, la première des choses, c'est déjà pour ceux qui veulent participer, c'est de s'inscrire. La liste est déjà au fond de la salle depuis quelques dimanches. Ce matin, elle était encore assez maigre, cette liste. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas aussi à vous inscrire pour la préparation des différents repas. Donc, les colonnes de droite, c'est pour participer. Les colonnes de gauche, c'est pour savoir à quel repas on participe. Alors, ce qui est bien quand on est dans les derniers à s'inscrire, c'est qu'au moins, on peut s'inscrire là où il y a encore des trous. C'est ce que je vous invite à faire. Ensuite, pour ce week-end, donc, il y a possibilité de pique-niquer sur place le samedi à midi. Sinon, d'arriver dans le courant de l'après-midi. Mais c'est vrai que si on pique-nique, c'est sympa parce que ça permet aussi de faire une balade dans l'après-midi et de faire des activités déjà ensemble le samedi après-midi. Si quelqu'un n'était pas au clair par rapport à l'itinéraire pour aller au Col des Mosses, n'hésitez pas à me demander ou à demander à un des anciens. C'est vrai que c'est important qu'il n'y ait pas de frein tout à fait pratique à la participation à ce week-end. Pour le coup, dimanche, il n'y aura pas de culte ici. Donc, dimanche, ceux qui restent dans la région, moi, je vous invite à participer au culte dans les autres églises évangéliques du Pays d'Aix. C'est l'occasion aussi de faire connaissance ou de renouer contact avec les autres chrétiens. Pour la semaine prochaine, lundi 17, la reprise de Femme Club. C'est aussi la rentrée pour les dames. Mardi 18, l'étude biblique des aînés à 14h30. Et puis le samedi 22, il y aura une journée de préparation pour un conteneur pour l'association VDE. Une journée de préparation donc de travail, j'imagine à Collonges. Pour tous ceux qui veulent participer, contactez Raymond, qui s'occupe de synchroniser tout ça. Sinon, encore une dernière annonce, pour le samedi 22, donc il y aura le club d'enfants, voilà, donc chacun de ceux qui est engagé dans cette activité va participer. Par contre, il y a encore un besoin, soit pour le vendredi soir, donc le 21, soit pour le samedi matin avant 10h, c'est pour préparer la salle. En fait, pour le club d'enfants, il y a besoin à ce que la salle soit vide et que les chaises soient mises de côté. Donc, si des personnes sont appelées à cela, c'est tout pratique, vous contactez Emmanuel ou Rebecca. Voilà, merci. Sinon, juste un petit rappel ou une précision par rapport à ce que Déborah nous a expliqué par rapport à la liste de prières pour les enfants. Ça fait déjà quelques années que cette liste de prières existe, et qu'il y a déjà toute une série de personnes qui prient pour les enfants. Sont rajoutés aux enfants qui sont sur la liste maintenant les enfants qui sont réguliers au club d'enfants. C'est vrai, c'est important de prier pour eux. Donc si des personnes voudraient se rajouter à la liste des intercesseurs, des personnes qui prient pour ces enfants, n'hésitez pas à contacter Déborah. Voilà, est-ce que au niveau du programme des activités, j'aurais oublié quelque chose? Oui.
Juste samedi le 22, il y a aussi le recommandement du groupe d'ado.
Voilà, donc samedi 22, reprise du groupe d'ado, à quelle heure?
14h30.
Samedi 22, 14h30, reprise du groupe d'ado. Oui. Oui, tout à fait, j'ai oublié. Donc, jeudi, il y a aussi la rencontre pour la fête de Noël, donc à 20h30. On s'est vu déjà jeudi passé. C'est vrai que notre fête de Noël aura lieu le 1er décembre, donc c'est assez tôt. Et donc, c'est important de démarrer tôt aussi. N'hésitez pas à participer. On recherche, entre autres, des idées pour une scénette. Voilà, si ça peut vous aider à y réfléchir et à vous engager là aussi. Merci Philippe. Sinon, je vous invite à vous lever et je vais vous lire encore un dernier verset dans Romains 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à chacun.